Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Les cours n'ont pas repris ce lundi au Congo central. Les enseignants campent sur leur position. Ils attendent la réaction des autorités quant à leur proposition pour reprendre la craie. Une proposition déjà transmise à l'autorité provinciale qui d'ailleurs cherchait une solution locale à leurs revendications. Et puis, comme annoncé, les procès Matata Pogne consort sur l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo s'est ouvert ce lundi à la Cour constitutionnelle, mais faute d'interprète pour le Sud-Africain Grobler Christo, l'un des co-accusés, la Cour l'a renvoyé pour le 8 novembre prochain. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Il a bouclé hier, à partir de la ville de Beni, sa visite en RDC, une visite qui l'a conduit à Kinshasa, Kalemi, Goma, Butembo et Beni. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Les cours n'ont pas repris ce lundi dans les écoles publiques du Congo central. Le souhait du gouverneur intérimaire qui proposait une solution locale pour les biens des élèves ne semble pas avoir été exaucé par les enseignants. Les délégués des enseignants du Congo central conditionnent la reprise par le paiement d'une prime dite provinciale à chaque enseignant. Simone Siloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, dit avoir fait part des exigences des enseignants à l'autorité provinciale. Ils attendent sa réaction avant de reprendre le travail, Nana Plurichombo.
Un mouvement de grève ne peut être éternel, dit Justin Luemba, gouverneur intérimaire du Congo central. Il dit tenir une solution locale pour la reprise des cours en attendant l'aboutissement des pourparlers entre les ministres de l'EPST et les banques syndicales. L'autorité provinciale a émis ses vœux le lundi 18 octobre au cours de l'entretien qu'il a eu avec les staffs éducationnels du Congo central et les élèves qui manifestaient pour revendiquer la reprise des cours. Sur base de la requête de Justin Luemba, les délégués des enseignants du Congo central ont tenu samedi une réunion pour réfléchir autour de la demande de l'autorité provinciale. Pour l'intérêt des enfants, les enseignants acceptent de reprendre les chemins de l'école, mais à condition de percevoir chacun une prime émanant de la province. Simon Siloulou est le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central.
On conditionne la rentrée sur 200 et 250 000. Et l'autorité provinciale l'a entendu, il a pris l'acte. Nous attendons sa réaction avant de rentrer.
Et jusque-là, ils n'ont pas encore reçu une quelconque réaction de l'autorité provinciale du Congo central. Dans l'entretemps, plusieurs écoles publiques sont fermées. Les élèves que nous avons interrogés ce matin affirment être fatigués de se rendre à l'école alors qu'ils n'y sont pas encadrés. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Cas similaire dans la province du Maniema, pas de reprise de cours ce matin dans les écoles publiques de l'État. Les enseignants de la place en avaient déjà décidé ainsi hier dimanche, à l'issue d'une assemblée extraordinaire tenue dans une des salles de classe de l'Épekindouville. Selon Mwaulu Mwanda Mukute, secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, section du Maniema, les enseignants avaient pris cette décision parce que, selon eux, le gouvernement a excellé dans des promesses non tenues. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Il y a eu une réunion de restitution de pourparlers qui ont eu lieu entre les banques syndicales, les banques gouvernementales provinciales, les organisations de la société civile, les associations de parents d'élèves, les gestionnaires tant provinciaux que sous-provinciaux des écoles pour réfléchir ensemble comment trouver des solutions locales à certains problèmes des enseignants, surtout NPNU. Après la restitution, échange et débat, la décision finale était que les enseignants sont restés catégoriques, donc ils ne reprennent pas les lundis. C'est ça la décision finale. L'Assemblée générale et souveraine, parce que moi je ne pouvais pas répondre à leur place à l'autorité provinciale. Voilà pourquoi je lui ai demandé un temps de revenir à la base et de restituer à la base qui a les derniers mots. Or, les derniers mots de la base, c'est de ne pas répondre parce que le gouvernement a excellé dans des tromperies, des mensonges, des promesses non tenues et fallacieuses. Voilà pourquoi ils ont dit cette fois-ci nous attendons l'issue des négociations qui vont débuter incessamment à Kinshasa entre les banques syndicales et gouvernementales dans le cadre de la commission paritaire.
Par contre, à Goma, ce sont des écoles privées qui n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi. C'est suite aux appels à des manifestations lancées tout le week-end dernier par un mouvement qui se présente comme le comité des élèves. Ce mouvement a fait circuler des messages dans les réseaux sociaux pour annoncer une marche pacifique ce lundi et le retrait de tous les élèves dans les écoles privées pour dire non à la grève des enseignants dans les écoles publiques. Sifa Maguru.
C'est pour prévenir d'éventuels dégâts et attaques contre les élèves des écoles privées qui fonctionnent depuis la rentrée scolaire que certains établissements scolaires privés ont demandé aux parents de garder leurs enfants et d'observer l'évolution de la journée. D'autres élèves qui ont pu se rendre ce matin dans les écoles ont aussitôt été priés de retourner. Cependant, le trafic est normal dans la ville, bien qu'il ait commencé timidement tôt le matin, mais aussi les boutiques et magasins sont ouverts. Toutefois, on observe une forte présence des éléments de la police nationale et des véhicules d'intervention sur les principaux points chauds de la ville, notamment au rond-point Signers, Mutinga, entre Président, Instigo, ainsi que dans la partie Majingo. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Au procès Matata Ponyo et consorts sur l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle l'a renvoyé la cause au 8 novembre prochain. Faute d'interprète pour le sud-africain Krobler Christo, gérant de la société Africom, comparaissant avec Matata et Patrice Kitebi, la Cour a jugé utile de permettre aux prévenus sud-africains de se trouver un interprète de son choix pour la bonne compréhension des audiences. À cette première comparution, le juge pénal s'est déclaré régulièrement saisi à l'égard de tous les prévenus, nonobstant l'exception d'irrégularité soulevée par une des parties de la défense. Il va prochainement poursuivre l'audition interrompue de la présentation des faits par le ministère public à charge des prévenus. Et puis, après plusieurs reports et l'annulation de son concert prévu le mois prochain en raison de la situation sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le procès du chanteur Koffi Olomide s'ouvre ce lundi devant la cour d'appel de Versailles. Condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour viol sur mineur de moins de 15 ans, Koffi Olomide avait été relaxé du chef d'accusation de séquestration. Concernant les 3 autres plaignantes, ses anciennes danseuses, elles l'accusent de séquestration et de relations sexuelles forcées. Le parquet, quant à lui, avait requis 7 ans de prison ferme et avait fait appel de la décision. Les faits se seraient déroulés à Arsenières. Ce lundi, le patron du groupe Quartier Latin est à nouveau sur le banc des accusés pour des faits qui se seraient déroulés entre 2002 et 2006 dans la villa du chanteur à Asnières en région parisienne. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, les laïcs catholiques et protestants, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, l'Amouka de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou notamment, ont décidé d'unir leurs forces au sein de ce qu'ils appellent les forces sociales et politiques de la nation. C'est là dans l'objectif d'obtenir, selon elle, par tous les moyens légaux, l'adoption consensuelle d'une loi organique sur la CENI et d'une loi électorale pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023, conformément à la Constitution. Cette structure l'a fait savoir dans une déclaration publiée hier dimanche à Kinshasa. On écoute à cet effet Jean Bosco Lalo, président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, au micro d'Alain Irung.
Il s'est tenu effectivement une réunion des forces sociales et politiques de la nation. Et ces forces se sont finalement mises d'accord afin de conjuguer les efforts et voir dans quelle mesure sauver le processus en cours par rapport à la CENI, qui voudrait être véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée et en faveur des élections crédibles, libres et transparentes, inclusives et apaisées en 2023. Il faudrait ici noter que les forces politiques et sociales qui ont apposé leur signature en âme et conscience sur les déclarations telles qu'elles sont publiées ont pris un engagement ferme et ont décidé de sauver le processus. Ces forces sociales et politiques ne se sont pas réunies autour des individus, ne se sont pas réunies pour faire plaisir à qui que ce soit, mais plutôt se sont réunies autour d'un idéal. Et pour l'atteindre, il y a des activités qui seront menées à court terme, à moyen terme et à long terme. Et tout cela afin que nous puissions sauver la nation.
Autre nouvelle, au Kassai Oriental, ouverture ce lundi en Mbujimayi du bureau de réception et traitement des candidatures, BRTC, pour la réception des candidatures au poste de gouverneur de province. D'après le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, l'enregistrement des candidatures est prévu du 25 au 31 octobre. Nicolas Kalambaï demande à cet effet aux candidats gouverneurs et aux mandataires des partis ou regroupements politiques de venir rapidement retirer les formulaires au BRTC. Esther Ndalafina.
C'est depuis 8h30 que le bureau de réception et traitement des candidatures du secrétariat exécutif provincial de la CENI Kasaï-Orientale a été officiellement ouvert pour le retrait des formulaires par les candidats gouverneurs, les mandataires des partis ou regroupements politiques intéressés à briguer le poste de gouverneur de province. Ce bureau sera fermé à 16h30 durant toute la période prévue pour les opérations, affirme le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Selon Nicolas Kalambay, le bureau est composé d'un président, d'un juriste vérificateur, d'un informaticien et d'un assistant réceptionniste. Le secrétaire exécutif affirme que depuis l'ouverture, aucun candidat ou mandataire des partis ou regroupements politiques n'est passé retirer les formulaires. La caution à ce poste est fixée à 20 millions de francs congolais selon la loi électorale. Le secrétaire exécutif demande à cet effet aux concernés de faire diligence pour éviter l'engouement au BRTC le dernier jour pendant cette période de COVID-19. L'élection du gouverneur de province du Kasaï-Oriental est très attendue par les habitants car depuis la déchéance du gouverneur Jean-Maweja Muteba, plus de 16 candidats de l'UDPS ont déposé leur candidature à leur parti politique pour manifester leurs ambitions. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Signalons que les BRTC pour la réception des candidatures au poste de gouverneur de province sont aussi ouverts au Congo central et au Kasaï central. Santé maintenant. Deux nouveaux cas de la maladie à virus Ebola ont été notifiés dans la zone de santé de Beni la semaine dernière. Cependant, aucun cas de la COVID-19 n'a été enregistré depuis dans les 17 zones de santé que compose la division provinciale de la santé. C'est ce qu'a déclaré Mumbere Louravo Damoulou, communicateur de l'antenne DPS de Butembo. C'était au cours du point de presse hebdomadaire tenu ce lundi. Des explications avec Grévis Salomon.
Les deux nouveaux cas, comme tous les autres, ont été notifiés dans l'aire de santé de Boutili au niveau de la zone de santé de Beni. À présent, on a enregistré cumul de 6 cas de maladie à virus Ebola depuis l'apparition de cette 13e épidémie dans la zone de santé de Beni. Parmi ces cas, on signale 4 décès communautaires et 2 cas sont pris en charge dans les centres de traitement d'Ebola. Mumbere Louavo Damoulou affirme que les investigations sont en cours pour identifier toutes les personnes qui sont entrées en contact direct ou indirect avec les cas énoncés.
Il y a une recherche active qui est à cours d'une quarantaine de cas qui n'étaient pas encore retrouvés. Donc, on est en train de rechercher ces cas par-ci, par-là, avec le concours de tous. Nous rappelons encore à notre communauté de pouvoir intervenir, participer à cette lutte en notifiant tout cas qui serait venu vers la zone de santé de Beni. Tout visiteur qui viendrait de là, il faudrait qu'il soit identifié.
Par ailleurs, aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été notifié la semaine dernière sur l'antenne locale de la division provinciale de la santé qui couvre les territoires de Beni et Lubero et les villes de Beni et Butembo avec les 17 zones de santé. Une occasion pour les communicateurs de la DPS de saluer cette évolution positive de la pandémie tout en appelant la population à demeurer pratiquant des gestes barrières. Butembo, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Et puis une équipe de la MONUSCO Sud qui vous renforce les capacités des commandants et officiers de l'armée et de la police de Kingu-Loubé. Une formation qui va s'achever le 28 octobre prochain porte sur les mécanismes de prévention et protection contre les droits de l'homme et le droit international humanitaire en zone de conflit. 30 officiers dont la moitié de la police prennent part à ces assises. Jean Kassami.
Kingu-Loubé n'est pas un modèle en matière de respect des droits de l'homme. Des barrières payantes sont érigées le long de la route nationale numéro 2 sur l'axe Kingu-Loubé-Maïmingi. Chaque passant débourse obligatoirement 1000 francs congolais, faute de quoi il est passé à tabac. Ces barrières étaient pourtant instituées pour sécuriser les points chauds où les combattants Maïmaï venaient piller régulièrement les usagers de la RN2. Pour l'abbé curé de la paroisse catholique de Kingu-Loubé, les services de sécurité tracassent la même population qu'ils sont censés protéger contre les incursions à répétition des groupes armés. Ce qui pousse la population de Kingu-Loubé à dire que son salut ne proviendrait que du rétablissement de l'autorité de l'État dont la présence n'est pas réellement remarquable sur toute l'étendue de la chefferie de Bamukuba Sud. Une autre entrave, ce sont ces arrestations arbitraires pour dettes opérées par la police à Kingu-Loubé. L'équipe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en mission sur place essaye de recadrer les officiers ayant en charge l'encadrement des policiers et des militaires basés à Kingu-Loubé. De Kingu-Loubé, Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle, plus de 6000 réfugiés centrafricains qui vivent encore sur le sol congolais, au nord et au sud Ubangi, vont retourner dans leur pays d'ici fin décembre. La relance de leur rapatriement digne et sécurisé par les HCR a débuté vendredi 22 octobre dernier. C'est en collaboration avec les gouvernements RD congolais et centrafricain. Le premier groupe est parti de Molé près de Zongo pour Bangui et les zones d'alentour jugées sécurisées. Paul Richard Malingela.
Vendredi dernier, le premier convoi routier a ramené du camp de Molé à Zongo 250 passagers. Ces personnes ont ensuite traversé la rivière Ubangi par baleinière à destination de Bangui. Outre les biens de première nécessité, dans leur bagage, certains avaient des documents civils, des certificats de naissance et de fréquentation scolaire obtenus durant leur refuge en RDC. À leur arrivée à Bangui, ces retournés volontaires ont été accompagnés par le maire de la ville congolaise de Zongo. Ils ont été accueillis par le premier ministre centrafricain, entouré du représentant du HCR-RCA, de la coordonnatrice humanitaire pays, de l'ambassadeur de la RDC en RCA et des agences de l'ONU. Le premier ministre centrafricain a manifesté sa gratitude à la RDC pour l'hospitalité réservée à ses compatriotes et au HCR pour le soutien leur apporté durant leur séjour en RDC. En vue de la prévention contre le COVID-19 pendant le rapatriement, il y a eu le dépistage, la fourniture des masques, la prise de température de ces rapatriés. Notons enfin que 9713 individus, dont des camps de Boyabou et Molé dans le sud Ubangi et de Inke dans le nord Ubangi, ont exprimé le désir de retourner dans leur pays. Cependant, le HCR prévoit de rapatrier d'abord 6116 personnes jusqu'à fin décembre prochain. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, l'armée soudanaise a arrêté plusieurs dirigeants civils de la transition, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. De nombreuses manifestations dans les rues de Khartoum, alors que le syndicat appelle à la désobéissance civile. La communauté internationale s'est dit inquiète suite aux annonces de coup d'État.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix qui vient de clôturer à Bénin une visite officielle de 5 jours en RDC. Jean-Pierre Lacroix s'exprime sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'appui de la MONUSCO FRDC dans les opérations de traque des ADF et le processus pour les élections prévues en 2023 dans les pays. Il répond aux questions de Martial Papimukeba.
Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer votre visite en République démocratique du Congo par l'étape de Beni après avoir été à Kinshasa, la capitale, Kalemi dans les Tanganyika, Goma et Butembo dans les Nord Kivu. Tout d'abord, pourquoi ces villes spécifiques en dehors de la capitale?
Il était, comme vous le sous-entendez, indispensable évidemment d'aller à Kinshasa et de rencontrer les plus hautes autorités, le président de la République, le gouvernement et aussi la société civile, les membres des partis politiques. Après, je crois que le choix de Kalemi, c'est un choix qui correspond à la situation particulière du Tanganyika, où il y a eu, dans la plus grande partie du territoire de la province, une réduction de la violence qui permet à la MONUSCO de procéder à une sortie graduelle. Je dis une partie du territoire parce que, je l'ai expliqué déjà, la MONUSCO va rester présente avec des éléments militaires au nord du territoire. Mais pour le reste, il s'agit d'une transition. L'aspect de poursuite par les Nations Unies du soutien aux efforts des Congolais eux-mêmes, mais dans des modalités qui vont évoluer. En ce qui concerne le Nord Kivu, là c'est différent parce que, évidemment, la situation de sécurité reste très préoccupante. Je note que à Beni, les représentants des différents groupes de la société civile qui étaient venus très nombreux à une réunion qu'on a eue avec eux, nous ont tous dit que la situation dans la ville de Beni s'est améliorée. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est un résultat positif et il faut dire, lorsque nous avons avec les partenaires congolais des résultats positifs, il faut le dire. Mais évidemment, il y a beaucoup à faire parce que dans le reste de la province et en particulier dans ce qu'on appelle le Grand Nord, il y a le défi des ADF qui demeure sur une bonne partie du territoire.
Globalement, comment vous évaluez la situation sur les plans sécuritaires et des droits de l'homme au Nord Kivu et en Ituri en cette période de l'état des sièges?
Encore une fois, beaucoup de défis. J'ai noté ce qu'on a entendu, encore une fois, des populations. C'est au sujet de la ville de Beni, donc un climat qui est bien meilleur dans la ville, mais ça ne doit pas occulter le fait que dans la zone du Nord Kivu et aussi maintenant en Ituri, il y a une situation qui reste très dégradée. Et aussi le fait que lorsque nous engageons des opérations contre les ZDF, ceux-ci qui sont très mobiles et qui procèdent par petits groupes font des représailles en allant tuer parfois de nuit des civils. Et là-dessus, ce que je veux dire, c'est que nos efforts doivent porter sur plus de renseignements, plus d'informations. Et hier, nous avons parlé avec la population de ça. Ils nous ont dit eux-mêmes, mais nous pouvons être vos partenaires dans ce domaine. Nous pouvons aussi vous aider à être mieux informés sur les allées et venues des groupes, parce que ce n'est pas juste une question de technologie. Avoir davantage d'informations de qualité, mieux coordonner toute cette collecte de renseignements et être capable ensuite d'intervenir très vite pour répondre aux menaces. Donc, situation qui reste dégradée, il ne faut pas se le cacher, mais les bases d'une très bonne coopération sont là. Le renforcement des moyens, que ce soit de la brigade d'intervention rapide de notre côté, la remobilisation de toute la force au niveau de l'état d'esprit, de la compréhension du mandat robuste et aussi des efforts qui doivent être faits du côté FRDC dans un bon esprit de coopération. Tout cela, je dirais, est prometteur, mais il faut continuer. On a une attente légitime qui s'exprime de la part de la population et Monseigneur l'évêque de ce diocèse que nous avons rencontré à Boutembo nous l'a dit clairement et il a tout à fait raison.
Vous reconnaissez que la situation est restée dégradée et exactement ces dernières semaines, bien les ADF ont multiplié les attaques contre les civils dans les territoires de Beni et à Djougou. Comment aujourd'hui vous évaluez les partenariats FRDC-MONUSCO dans la riposte contre ces groupes armés et comment avez-vous renforcé votre efficacité dans ces zones?
Sur la partie, je dirais, renforcement de notre coopération, maintenant il y a une coopération structurée à travers l'existence d'un état-major conjoint. Donc, la planification et les opérations se font maintenant de manière systématiquement conjointe avec les FRDC. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc, on a une bien meilleure transparence. Ça, c'est fondamental. Ensuite, comme je l'ai dit, notre outil est notamment la FIB. Mais la FIB, ce n'est qu'une partie de la force. Toute la force est engagée et a été renforcée. Je souligne que du côté des FRDC, la question des réformes nécessaires est prioritaire. Et je le dis d'autant plus que c'est une priorité qui est clairement exprimée au plus haut niveau de l'État.
Jean-Pierre Lacroix, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.